WWDC 2022 confirmé du 6 au 10 juin prochain avec des développeurs et des étudiants à l'Apple Park le 6, mais une keynote dont ils regarderont la vidéo. Florent Morin, développeur iOS et technophile, notre invité. Que veut donc Elon Musk à Twitter? L'homme désormais le plus riche du monde a acheté pour 3 milliards d'actions Twitter qui a bondi de 27% dans la foulée. Il va se retrouver au conseil d'administration, mais avec quelles intentions? Un iPhone sur abonnement, et pourquoi pas, sauf qu'il risque de vous coûter beaucoup plus cher qu'en l'achetant comptant, et vous n'en serez jamais propriétaire, à suivre dans Pommes. Peu de rumeurs cette semaine, mais l'une d'elles concerne l'iPhone 16, alors ça compense. Et puis le tuto audio, aujourd'hui, comment vérifier quels appareils sont connectés à votre compte iCloud. Bonjour à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous dans cette iWeek, la semaine Apple, épisode 85. C'est le 32e numéro de la saison 2 et je suis très heureux de vous retrouver. On va passer un super moment ensemble à nouveau autour de l'actu Apple. Tout de suite, une pensée pour notre jeune retraité. Oui, je parle d'Eli Abitbol, qui s'est cassé l'épaule le premier jour du reste de sa vie en voulant faire du kitesurf dans son salon. Et oui, c'est ça les Niçois. Non, je plaisante. Hein. Eli, on pense à toi. Ne fais pas trop de folie de ton corps en ce moment. On préfère, comme ça, tu pourras être vite de retour parmi nous. Autre absent excusé, François Le Truédic, pour cause de déménagement. Alors François, bonne signature, bon carton et bon transbahutage. Eux n'avaient pas d'excuses, alors ils sont là et heureusement pour moi. Salut à vous, salut les garçons, salut Gilles Dounès.
Ça farte pour repartir sur Nice.
D'accord. Content de te retrouver, Gilles. Je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net notamment et le co-auteur de l'excédent iPod Backstage à lire pour tous ceux qui veulent connaître l'histoire de l'iPod. Salut Fabrice Neumann.
Quelle salade pour faire dans le niçois et en hommage à François alors. Salut à tous.
Salade niçoise avec du riz.
Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la chose, donc je ne me permettrai pas d'avoir un avis.
Bon, on fera un débat quand le niçois sera de retour.
Voilà, c'est mieux.
Bon, Fabrice Neumann, mentor en technologie.
C'est exact. J'ai essayé de faire en sorte que les gens comprennent un peu mieux la technologie, qu'ils soient autonomes avec. Il y a du boulot.
Bon, on te retrouve sur ton site.
Et oui, sur mon site pro-fusion-conseil-au-pluriel.fr.
Voilà, vous savez tout sur Fabrice, il va encore égayer ce numéro d'iWeek. Et puis, il est également des nôtres aujourd'hui, c'est son troisième passage, je crois, dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Bonjour Florent Morin.
Salut.
Oh, salut. Faut que je reprenne le coup du bonjour en vulcain, ouais. Comment vas-tu, Florent?
Bah super, écoute, super, et ça va encore mieux depuis hier, depuis l'annonce de la WWDC.
Eh bah oui, on imagine. Alors, je rappelle, hein, morin-innovation.com, c'est ton site. On te doit l'excellent bouquin de l'idée au succès qui a été édité par MacG. Tu es technologiste, tu connais très bien Apple, ses produits et ses OS, puisque tu es aussi développeur. Alors, effectivement, Florent, la WWDC 2022, elle est confirmée depuis quelques heures. Elle aura lieu du 6 au 10 juin. On va y revenir en détail dans quelques minutes, mais tout de suite, comme ça, ton sentiment, en quelques mots, à exactement 2 mois moins un jour de cette nouvelle dub et de la keynote du 6.
Bah écoute, les premiers éléments donnent vraiment l'eau à la bouche. Et on attend d'en voir plus parce qu'il y a, entre le matériel qui est arrivé et tout, il y a vraiment quelque chose de très prometteur.
Ah bon, super. Alors on va en reparler avec toi évidemment tout à l'heure. On va aussi parler de l'événement de la semaine. Alors il ne concerne pas directement Apple, mais c'est une énorme secousse tectonique sur la planète GAFAMT. J'ai mis un T à la fin, un T comme Twitter, avec ce qui ressemble à un mini coup d'État. Elon Musk dégaine 3 milliards de dollars, prend 9,2% du réseau social et se retrouve au board en 24 heures. Gilles, bah, ça nous concerne quand même un petit peu, non?
Oui, au bord de la crise nerfs même, dans la mesure où c'est quand même un des réseaux sociaux les plus privilégiés maintenant que Facebook est en train de... L'étoile de Facebook est en train de pâlir. Et puis, il y a un compagnonnage qui est ancien entre Apple et Twitter.
On va évidemment en reparler dans un instant, Gilles, Fabrice, Florent. Gilles, puisque je te tiens, ton focus cette semaine, tu vas zoomer sur un photographe, mais pas n'importe lequel.
Oui, c'est un jeune photographe de 13 ans qui s'appelle Anthony Schmidt et qui souffre de troubles de la sphère autistique et sur lequel Tim Cook a mis un petit coup de chapeau à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux troubles de la sphère autistique, à l'autisme, le 2 avril dernier.
Bon, on va en reparler tout à l'heure. Dans ton focus de la semaine, Gilles, Fabrice, si je te dis Face ID sous l'écran, est-ce que ça t'excite ?
Ah, ça me ferait plaisir, parce que d'autant plus que moi je fais partie de ceux qui n'ont pas réussi à se faire à l'encoche sur l'iPhone 10 et les suivants. Je trouve ça toujours horrible et pas pratique. Donc tout ce qui pourra permettre de réduire la surface prise par cette encoche, voire la faire disparaître, j'attends ça avec impatience.
Bon, en tout cas, c'est l'une des trois rumeurs de la semaine et on va quand même évoquer l'iPhone 16 tout à l'heure. Alors, cramponnez-vous. Bon, je vous rappelle les bonnes adresses si vous aimez iWeek. D'abord, patreon.com/iWeek, c'est le moyen de nous soutenir financièrement à partir d'1,50€ par épisode. Merci à tous nos contributeurs et contributrices. Rejoignez-les, aidez-nous à continuer iWeek et puis à le développer. Donc une seule adresse à retenir, patreon.com/iWeek. On compte évidemment sur vous. Pour nous suivre aussi sur les réseaux et sur Twitter, followez-nous sur @iWeekNews et utilisez le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple, pour échanger, dialoguer, réagir avec nous entre deux épisodes. On est à votre écoute et on adore cette interaction. Et puis si l'actu Apple vous passionne, eh bien vous avez iWeek, mais vous avez aussi notre podcast quotidien. C'est i5, c'est le seul, le premier du genre, un podcast quotidien. 5 grosses minutes, les 5 infos essentielles des dernières 24 heures pour moins de 5€ par mois. Ça fait plus d'une vingtaine d'épisodes. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast. Et bah, là aussi, rejoignez la communauté des abonnés à i5. Dans une poignée de minutes, la DubDub 22, tout ce qu'on sait, ce qu'on peut en attendre avec Florent. Mais d'abord, Twitter, et on cherche le nom de la mouche qui a piqué Elon Musk. A tout de suite. Elon Musk satellise Twitter en devenant le premier actionnaire du réseau social avec 9,2% des parts, loin devant les 2,3% du fondateur Jack Dorsey. Le CEO de Tesla et de SpaceX a mis 3 milliards de dollars sur la table. Quelques heures plus tard, le nouveau CEO de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé qu'il lui proposait de siéger au conseil d'administration. Dans la foulée mardi, l'action Twitter a gagné plus de 27%, mais le bad buzz a aussi commencé, les premiers utilisateurs annonçant qu'ils quittaient Twitter à cause de l'arrivée d'Elon Musk, en parlant de la fin d'une époque. Alors c'est ce dont on va discuter ensemble. D'abord, on va faire un premier tour de table. Votre réaction à cette annonce de l'arrivée d'Elon Musk au capital de Twitter, est-ce que ça vous a étonné à la fois dans la forme et sur le fond, Fabrice ?
Étonné, j'en sais rien. Elon Musk fait partie de ceux qui ont vraiment besoin, semble-t-il, d'être sous les feux de la rampe. Il en a les moyens, donc il peut sortir 3 milliards de dollars pour faire bouger pour les caméras vers lui, mais aussi pour faire bouger les choses. On verra s'il arrive à faire quelque chose sur Twitter. Alors, je pense qu'il faut aussi faire attention à la différence entre ce qu'il exprime publiquement et puis ce qu'il veut faire réellement. Il se pose en défenseur des droits du Twittos en voulant annoncer et pousser, l'adoption, enfin, la création d'une fonction d'édition et de correction de ses tweets. Est-ce qu'il a d'autres raisons d'agir ? Je pense qu'on le verra plus tard, mais qu'on ne les connaît pas encore aujourd'hui.
Florent, ton regard à toi sur cette news là qui a dominé les dernières 24-36 heures ?
Bah, en même temps, bon, ouais, c'est un énième projet qu'Elon Musk ne va pas finir. Et c'est vrai que bon, après, c'est un peu comme si Trump arrivait en mettant la main sur Twitter. Il en fait tellement un drôle d'usage que c'est un peu surprenant, mais bon, les nouvelles fonctionnalités ne devraient pas trop arriver trop tôt, du moins, puisque bon, on sait comment ça se passe chez Tesla, et voilà, il y a toujours un effet d'annonce et 10 ans de décalage.
10 ans, oui, c'est beaucoup là, 10 ans, oui, c'est sûr. Gilles, comment tu as pris la nouvelle, toi ?
Bon, c'est Elon Musk qui a pris cher, là, depuis le début, depuis le début de l'émission. Il y a deux choses. De manière générale, c'est pas la première fois qu'il y a un gros capitaliste qui s'invite comme ça au capital d'une société. C'était arrivé chez Apple. Il y avait un gros spéculateur qui s'appelle Carl Icahn qui s'était invité comme ça au capital d'Apple en achetant un gros paquet d'actions, puis s'était vanté d'aider Tim Cook à administrer la société. Il s'était fait inviter, ou je sais pas qui avait réglé l'addition, mais il avait dîné avec Tim Cook et il a fait une grosse annonce là-dessus. Il avait partagé le pain et le vin. Tim Cook l'avait écouté poliment et puis voyant quoi, rien n'avait changé. C'était en 2013 et en 2016, il est parti avec un gros bénéfice et on n'a plus entendu parler de lui. Elon Musk fait pareil, il achète un gros paquet d'actions. Il prétend infléchir le devenir de la société, comment on doit tweeter et avec quelle facilité. C'est assez particulier. On dit deux mots de la réaction du conseil d'administration.
On dit deux mots de ce que tu veux.
Bien, s'il accepte, je crois qu'il a accepté, je ne veux pas dire de bêtises, d'entrer au conseil d'administration, il n'a pas le droit d'augmenter sa participation au-delà de 14%, et ce pendant quelques mois. Du coup, il va pouvoir dire ce qu'il pense à la table du conseil, très bien, mais il ne peut pas essayer de prendre la société comme, par exemple, un gros capitaliste prédateur a pu le faire de Vivendi, par exemple, y compris en étant minoritaire. Donc c'est un peu une assurance que prend Parag Agrawal. Et ça,
C'est du court terme, c'est quand même du court terme.
C'est du court terme, mais il y a 6 mois ensuite pendant lesquels il ne peut pas bouger. C'est peut-être le temps de voir qu'il va se casser les dents. D'autres, il peut blinder au niveau des autres membres du conseil d'administration, même si, Elie nous le disait tout à l'heure, deux d'entre eux ont déjà claqué la porte.
C'est quand même assez étonnant parce que Elie nous racontait que quand Musk a annoncé son investissement, il avait renoncé au droit de vote.
En tant qu'actionnaire.
Oui, et là, il se retrouve au conseil d'administration.
Il a une voix parmi d'autres. Et, comment dire, il peut faire valoir son opinion. Les autres peuvent l'écouter poliment. Et c'est la majorité du conseil, du board qui décide, quoi.
Comment est-ce que vous expliquez l'intention d'Elon Musk? Fabrice, tu disais qu'il aime bien faire parler de lui, en gros, tout à l'heure. Bon, il a plein de manières de le faire, donc pourquoi est-ce qu'il a choisi celle-là, à ton avis?
Pourquoi Elon Musk choisit ça? Alors, je pense que déjà, il est très à l'aise avec Twitter. Ça a l'air d'être un environnement assez naturel pour lui, donc peut-être que c'est juste ça. Le fait est qu'il c'est aussi un bon investisseur, donc Gilles le rappelait tout à l'heure. Il dépense 3 milliards et il aurait pu en sortir 6 quasiment le lendemain. J'exagère un peu. Donc là, il peut plus parce qu'il est au conseil d'administration. Ça a l'air d'être un endroit où il se plaît. Donc s'il pense qu'il peut l'améliorer... Alors Florent était tout à l'heure assez moqueur. On ne peut pas enlever à Elon Musk d'être capable de mener à bien certains projets. Hein. Rappelons qu'il a été le créateur de PayPal aussi. Alors, il l'a créé, il l'a vendu, il a fait plein d'argent et puis il a fait autre chose. Il a créé des voitures électriques Tesla, elles sont en vente. Donc, il fait des promesses qui parfois tient sur... je vais encore m'attirer les foudres d'Eli pour ce qui est de la conduite autonome, c'est pas encore ça. Mais enfin, c'est pour l'instant...
Il les vend, Tesla. Il les vend et il en vend de plus en plus.
Tesla était là avant lui. Tesla était là avant Elon Musk.
Enfin, c'est depuis qu'il est au volant, si j'ose dire, qu'on en parle et que ça se développe vraiment et qu'il a fait bouger le marché des batteries, etc. Donc, il envoie des fusées pour alimenter la station spatiale. Enfin, on peut pas dire que ces projets n'arrivent pas au bout quand même, et en tout cas qu'il ne fait rien. Donc, est-ce que et dans notre petit monde de la techno, parce que là, pour le coup, je trouve que Twitter c'est beaucoup plus petit, même si en envergure, je veux dire. Mais ça fait beaucoup d'utilisateurs de Twitter demandent notamment ce bouton d'édition des tweets. Est-ce qu'il arriverait à faire bouger Twitter même en n'ayant qu'une seule voix au conseil d'administration? Ce serait intéressant à voir, parce que ça fait des années qu'on le demande et que Twitter ne réagit pas.
Ouais, Jack Dorsey, en janvier 2021, avait dit, mais c'est une question qu'on se pose depuis très longtemps et je crois que nous ne le ferons jamais. Parce que on a l'impression que c'est tout bénef de mettre un bouton d'édition, mais en fait, ça pose plein de problèmes, Fabrice.
Ah, ça en pose plein. D'abord, ça pose la question de savoir si on souhaite qu'un réseau social comme Twitter soit un réceptacle d'informations ad vitam aeternam qui ne disparaît jamais, même si on peut effacer ses tweets. Ça pose un vrai problème de contrôle de la liberté d'expression et jusqu'à où on peut la laisser ou la perturber. Mais par exemple, pour permettre à des gens qui auraient fait des tweets insensés, qui auraient été à l'encontre de lois d'incitation à la haine raciale, par exemple, de corriger leur tweet en disant j'ai jamais dit ça. Donc il y a des façons de faire. On peut imaginer. Donc c'est ça qu'il va falloir voir. Le truc, l'édition des tweets, ça vient d'où? C'est que on est plein à être utilisateur de Twitter à écrire un tweet, à l'envoyer, puis à se dire « zut, il y a une faute d'orthographe » ou « j'ai pas dit exactement ce que je voulais ». Il y a un truc, et donc on ne peut pas changer ça. Donc on peut quand même imaginer tout un tas de choses, comme un bouton d'édition qui permettrait de le changer pendant 5 minutes, par exemple, ou quelque chose qui, si on corrige, le tweet précédent reste visible et lisible pour ceux qui liraient le tweet qu'on a laissé, par exemple. Donc il y a des moyens techniques qui sont assez simples, de mettre en place une fonction d'édition de tweet qui ne perturbe pas l'expression.
Parce que l'un des dangers, c'est quand on retweet, c'est de retweeter la première version d'un tweet qui ensuite serait modifié, qui dirait autre chose que la première version, et du coup on se retrouverait à colporter un message qu'on n'a pas approuvé.
Oui, mais par exemple, de la même façon que quand aujourd'hui on veut retweeter quelque chose, par exemple, quelqu'un tweet un article, et il y a juste un tweet qui est le titre de l'article. On clique sur retweeter et Twitter affiche un message disant « Ne voulez-vous pas lire l'article avant de le retweeter ?»
C'est vrai.
On choisit ou pas de le retweeter. Donc si on le fait, c'est très bien. Là, on peut très bien imaginer un petit message qui dit « Attention, ce message peut encore être modifié » pendant 3 minutes, voulez-vous attendre la fin de la période d'édition avant de le retweeter? Ça, c'est pas très difficile, hein, techniquement parlant. C'est pour ça que le discours de Jack Dorsey à ce sujet me paraît un peu faible, quoi. On a presque l'impression qu'il veut pas le faire parce que ça va faire du travail.
Oui.
Franchement, il y a plein de trucs comme ça qui sont. C'est pas très difficile à faire, je crois pas. Hein.
Gilles.
C'est pas très difficile, mais on a inventé une manière de corriger les fautes d'orthographe, de se préciser sa pensée en répondant à son propre tweet, en mettant une astérix avec la correction, la bonne orthographe ou sa pensée qui est précisée. Philosophiquement, je suis pas contre. Reste à savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur, quoi.
Bon, en tout cas, Elon Musk, il a pris le public à témoin, puisque dans la foulée de l'annonce de son arrivée au capital Il a lui-même tweeté ce sondage avec cette question. Voulez-vous un bouton pour modifier vos tweets ? Je crois qu'il y a eu plus de 3,5 millions de votes, avec une assez nette victoire du oui à 73%. Donc voilà, c'est un élément de plus qui sera probablement mis dans la bannette d'un prochain conseil d'administration. Florent, les dangers de ce bouton d'édition, est-ce que tu les perçois ou est-ce que pour toi ce serait tout bénéfice pour les utilisateurs de Twitter ?
Non, ça reprend un peu ce qu'a dit Fabrice, hein. C'est clair que si quelqu'un commence à dire n'importe quoi et modifier ensuite, ben on n'en sort pas. Après, encore une fois, c'est juste qu'il faut mettre des règles en place. Et d'ailleurs, Twitter s'exprimait là-dessus en disant que les équipes y travaillent, mais qu'il y aurait des règles imposées, etc. Donc, tant qu'il y aura des bonnes règles qui permettront de garder un peu l'esprit Twitter, ce sera intéressant. Après, encore une fois, il y a plein de leviers pour faire les choses correctement, comme le dit Fabrice. Donc, ça pourrait être un système de pouvoir éditer pendant tant de temps, ou ça pourrait être garder, par exemple, c'est tout bête, hein, mais garder d'historique des modifications d'un tweet. C'est tout à fait possible. Donc voilà, il y a plein de leviers en fin de compte. Maintenant, il faut que ce soit bien fait et je pense qu'il y a un risque, il y a toujours un risque et je pense que le risque fait un peu peur aussi.
Il y a un outil d'édition hein, qui est pas mal aussi, hein, qui est long comme, qui est vieux comme l'évolution, c'est le cortex préfrontal et qui permet de relire son tweet et de réfléchir avant de parler, de tweeter. Aussi.
Très juste, Gilles. Bon, ben, on va suivre évidemment cette actualité du côté de Twitter. Je jette un œil sur les cours de l'action Twitter en cette journée de mercredi. Grosse baisse hein, sur le Nasdaq, puisque bon, Apple perd 2%, mais il y a des baisses de 8, 9, 6%. Donc, c'est pas une très bonne journée. L'action Twitter est la seule à gratter un petit peu. À près de 1% de gains pour l'instant pour l'action Twitter. Donc il y a toujours un effet Elon Musk pour l'instant à la bourse. On se retrouve dans un instant avec cette confirmation de la WWDC 2022 qui aura bien lieu au mois de juin. On en parle avec Florent Morin et la Team iWeek. À tout de suite. On vous l'avait dit la semaine dernière, ici, et c'est confirmé depuis mardi soir, la WWDC 2022 aura bien lieu. Ce sera du 6 au 10 juin prochain, avec une keynote le 6, une conférence mondiale des développeurs pour la troisième année consécutive, à la fois entièrement en ligne et entièrement gratuite, mais avec un peu d'hybride, puisqu'un nombre limité de développeurs et d'étudiants pourra assister physiquement à la journée du 6 juin, à l'Apple Park. Florent Morin, bah, tu es toujours avec nous. On va en discuter avec toi de cette dub-dub. Toi qui es développeur, donc qui est directement concerné. Tu nous disais tout à l'heure que c'était une forme de soulagement, là, quelques heures après cette officialisation pour toi.
Oui, déjà, on sait à quoi s'en tenir. Voilà, bon, bah, tant pis, on a fait rembourser le ticket d'avion. Et,
tu avais pris ton billet d'avion déjà ?
Ah ben, il faut le prendre à l'avance, sinon, en fait, tu te fais avoir.
Ah, t'avais déjà pris un billet d'avion.
Et réserver l'hôtel, mais bon. Ça s'annule facilement. Ouais.
Ah, bien vu.
Parce que la première fois où j'étais allé à la Dub-Dub, je m'étais fait avoir, ça m'avait coûté un demi-bras. Et en plus, c'était pas terrible niveau emplacement et tout ça. Donc après, ben, j'ai pris mes précautions, et voilà.
Tu veux dire que dès que la date est officialisée, quand c'est en présentiel, les prix des billets d'avion explosent ?
Ouais. Tout le monde se précipite.
Eh oui.
Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres conférences à côté, donc généralement c'est synchro, parce qu'en fait, t'as la dub-dub, mais pour ceux qu'en fait, qui n'ont pas droit au ticket, t'as la alt, t'as une alt-conf, je crois, je ne sais plus exactement quel est le nom. Et en fait, c'est une conférence alternative de la dub-dub pour les développeurs iOS. Donc en fait, tous ceux qui ne sont pas reçus à la loterie peuvent aller là-bas, c'est juste à côté.
Loterie, parce qu'on le rappelle qu'en présentiel, il y a un tirage au sort pour c'est avoir ça. Le droit de payer sa place, en fait, hein, pour aller à la conférence c'est officielle. Ça. Mais ça veut dire que tu avais espoir cette année qu'elle ait lieu en présentiel ?
Oui, parce qu'en fait, j'avais regardé un peu sur le site, parce que si tu veux, quand t'es accro, tu y es jusqu'au bout. Et j'avais regardé sur le site de San José, le site du pas le palais des congrès, mais
l'équivalent,
salle, enfin la grande salle qui réserve à chaque fois. Et c'était marqué en gros We are back, et en fait, il permettait d'organiser des événements sous réserve que tout le monde soit vacciné, sous réserve d'avoir des masques et sous réserve de faire un test chaque jour. Donc je me dis, les conditions sont quand même assez drastiques, donc peut-être que pourquoi pas. Mais en fait, non.
Bon, alors cette édition 2022, elle sera donc entièrement en ligne, comme le dit Apple, mais il y aura cette journée du 6 qui sera une journée un peu différente, en tout cas pour ceux qui seront à l'Apple Park, puisqu'il y aura un événement en présentiel à l'Apple Park. Alors, Apple dit bien que ce sera pour un nombre limité de développeurs et d'étudiants. On n'a pas encore de détails sur qui sera là, comment les uns et les autres seront choisis, désignés ou invités, on ne sait pas. En revanche, il y a le mot vidéo qui est utilisé dans le communiqué. Apple dit que les développeurs et les étudiants qui seront à l'Apple Park pourront regarder les vidéos de la keynote et du discours sur l'état de l'Union. Ça veut bien dire qu'il n'y aura pas de keynote avec Tim Cook sur scène pour faire les démos comme on en avait l'habitude jusqu'en 2019. Et ça, pour moi, c'est un peu une déception. Mais bon, je sais que vous êtes plutôt favorable aux keynotes produites comme un film hollywoodien.
Oui, Pierre,
je pense qu'il faut un peu des deux.
Florent, c'est quoi ta préférence, toi?
Ben, honnêtement, honnêtement, dans la dub, le plus intéressant, c'est pas spécialement le show, en fait. En tant que développeur, c'est plutôt d'aller à la rencontre des ingénieurs, etc.
Bien sûr.
Donc, ouais, c'est pas le, ouais. Le show, c'est une chose, c'est chouette, hein, mais bon, c'est pas, moi, je suis pas spécialement dans le fanatisme absolu, c'est plutôt vraiment pour aller rencontrer les développeurs et apprendre plein de choses. Donc, l'un ou l'autre, ça m'importe assez peu.
Alors, tu disais tout à l'heure que ce qui s'annonce fait super envie. À quoi tu pensais en disant ça, et quelles sont les indications ou les suppositions sur lesquelles tu t'appuies?
J'ai plus que des suppositions, parce qu'en fait, j'ai publié un article sur MacG il y a quelque temps sur en prévision de dub sur ma Swift 5.7. Donc déjà, les premières nouveautés de Swift 5.7 qui s'annoncent. Donc à savoir Swift Concurrency qui va passer la 2, avec
Rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Swift.
Ah oui, pardon. Donc en fait, Swift, c'est le langage de programmation qu'utilisent les développeurs sur les plateformes Apple. Donc sur l'ensemble des plateformes, c'est le même langage.
Il faut dire que ça a été inventé par Apple.
Ah oui, ça a été inventé par Apple, ouais.
Et tout le monde s'en est emparé après.
Ouais. Et en fin de compte, ils ont apporté beaucoup de nouveautés dans la gestion du multicœur avec Swift Concurrency. Donc ça tombe bien, dans la foulée, ils ont sorti des Mac avec je sais pas combien de dizaines de cœurs, etc. Et ils avaient anticipé les choses. Mais finalement, c'est toujours comme ça que procède Apple. D'abord préparer les développeurs et après sortir le matériel, parce qu'il y a toujours un vrai décalage temporel. Parce que il faut du temps pour développer, et je sais de quoi je parle. Et là, l'autre grosse nouveauté qu'amène Apple et qui montre un peu son ouverture vers les entreprises, c'est la possibilité de faire du calcul distribué directement dans Swift Concurrency. C'est-à-dire qu'en fait, le calcul distribué, c'est quoi? C'est on utilise plusieurs machines pour effectuer une opération de n'importe laquelle, d'apprentissage automatique, admettons, vu qu'Apple est bien calé là-dedans. Et donc déjà, si on l'utilise en multicœur, ça permet d'utiliser tous les cœurs d'une seule machine, mais en calcul distribué, on utilise tous les cœurs de plusieurs machines. Et donc c'est comme si on avait une énorme app distribuée sur plein de machines. Et si c'est géré au niveau langage, le développeur n'a pas à se casser la tête à le gérer. Et en plus, Swift Concurrency a optimisé l'utilisation des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de tout simplement de solutionner un problème qui casse la tête des développeurs dans tous les domaines depuis toujours, c'est la gestion correcte de l'utilisation de plusieurs cœurs. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je prends un exemple de machines beaucoup plus grosses, les supercalculateurs comme ont Météo France et autres par exemple. Ils ont des multitudes de cœurs, mais à chaque génération, peut-être qu'ils vont, admettons, faire x2 en nombre de cœurs, mais pour autant, ils vont peut-être augmenter les performances de 5 ou 10% maximum. Parce qu'il y a un problème à la fois de gestion du multi-cœur, etc., côté développeur, et à la fois un problème de gestion des ressources. Et Apple a déjà présenté leur manière de gérer ce problème-là l'an dernier. Je suppose qu'ils sont allés encore plus loin. Et ça, si ça fonctionne, ça va révolutionner la gestion des opérations multicœur en informatique de manière générale. Parce que leur procédé est simplement génial.
C'est énorme ce que tu dis entre cette façon d'utiliser la mémoire vive de façon centrale, de pouvoir grouper les processeurs entre eux de manière physique, rajouter des cœurs sur les puces à la demande, et puis là, ce que tu décris en calcul distribué, je rêvais de ça en 2003 pour le successeur du G4. Et potentiellement, s'ils font le même saut qualitatif avec le Mac Pro qu'ils ont fait avec le Mac Studio, potentiellement, ils peuvent s'attaquer au serveur et faire des clusters. Enfin, c'est un truc de folie.
C'est phénoménal, c'est phénoménal. Faut dire, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, tu as toujours un temps de calcul quand tu crées une nouvelle tâche en tâche parallèle. Et c'est d'ailleurs, au bout d'un moment, il y a aussi le phénomène où tu as beaucoup trop de tâches et les cœurs ne savent plus gérer, ainsi de suite. Là, en fait, ce que veut faire Apple, c'est déterminer un nombre maximum de tâches, c'est-à-dire que c'est calibré par rapport au matériel et non plus par rapport au logiciel. Donc, ce phénomène d'explosion n'existera plus. Et deux, le coût de passage ne sera plus une fraction de seconde, sera zéro, quasiment zéro, c'est-à-dire... ils illustrent ça comme la création d'une nouvelle fonction. Et quand on fait appel à une nouvelle fonction dans le code de manière générale, bah le coût est quasi nul, en fait. Et ce serait à peu près ça. C'est vraiment, d'un point de vue ingénierie, c'est absolument fabuleux, quoi. Est-ce qu'ils vont y arriver? Peut-être. Généralement, ils arrivent à faire ce genre de choses. Mais bon, à voir.
Fabrice.
Oui, j'en profite parce qu'on a un développeur parmi nous. C'est vraiment passionnant ce que tu dis et puis donc je suis pas développeur donc je me rends pas bien compte de tout ça. Mais est-ce que tu penses que c'est une explication de certains résultats de bench, on va dire, j'exagère un peu, mais en demi-teinte du Mac Studio, qui malgré le nombre de cœurs monumental comme tu le rappelais, a pas forcément montré un gain de puissance, en tout cas pas dans toutes les tâches, par exemple entre le M1 Max et le M1 Ultra, malgré le doublement du nombre de cœurs, etc. Donc on a parlé de temps en temps de manque d'optimisation de certaines applis, mais est-ce que ça viendrait pas aussi de ce que tu décris, que en fait le système est pas encore capable d'en tirer parti parce qu'il n'est pas encore appuyé sur les éléments que tu viens de décrire?
Il y a un peu des deux, en fait. Il y a à la fois ce phénomène, et c'est clair que le problème a été anticipé par Apple. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, là-dessus. C'est un problème connu. Et aussi le fait qu'il y a, dans les frameworks qu'a développé Apple, Apple n'a pas elle-même déjà optimisé son code. Par exemple, je vais donner un exemple qui est assez classique. C'est donc l'exemple de CoreML. Qui est donc le framework d'utilisation qu'on utilise pour faire d'apprentissage automatique sur les technologies Apple. Entre la version qui est sortie avec la génération iOS 13 et équivalent côté Mac et iOS 14, entre les deux générations, les performances, ça a été x2. Sans bouger une ligne de code. Tout simplement parce que côté framework, Apple a vraiment optimisé son matos. Et je pense que ce phénomène va s'accentuer, et Apple a toujours fait ça. Ils font toujours du matériel qui est sous-exploité, et vaut mieux ça plutôt que de l'obsolescence, en fait. C'est quasiment le procédé inverse de l'obsolescence. C'est-à-dire que tu arrives avec un matériel qui est prêt pour les usages futurs. Et c'est là où c'est assez sympa, quoi. Ça veut dire que on peut dire quasiment à coup sûr que le Mac Studio sera de plus en plus performant.
Impressionnant.
Voilà.
Au niveau du matos, est-ce que tu as des attentes pour cette dub-dub? Ça fait plusieurs semaines qu'on en discute entre nous et on n'est pas forcément toujours du même avis. Est-ce que tu vois un ou plusieurs nouveaux Mac présentés dans 2 mois?
Ouais, je vois clairement un Mac Pro, ça c'est indiscutable.
Pour toi, c'est une certitude?
Ah, pff, ouais, sûr. Dans les prochains mois, pour moi, c'est sûr. Après, pour le reste, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'il y aura un renouvellement de gamme en fin d'année sur le MacBook Air, en fait, qui adoptera un nouveau design. Je pense qu'on aura droit à un M2, mais un M2 qui serait juste une amélioration avec quelques optimisations des puces pour gérer plus de fonctions de machine learning ou de traitement vidéo, par exemple. Voilà, mais ce serait juste une évolution technologique, on va dire, et pas forcément une augmentation des performances fulgurantes. Après, bon, je suis pas dans les petits papiers d'Apple, mais ce serait assez logique par rapport aux évolutions précédentes, en tout cas.
Est-ce que tu crois encore à un iMac grand écran, qu'on l'appelle Pro ou 27 ou 30?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être, hein, ce serait pas. Peut-être, mais j'en suis pas certain en fait.
Bon, et le.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est le Mac, plutôt le Mac Studio avec l'écran qui va avec.
Ouais. Et justement, le Studio Display, t'en penses quoi, toi?
Pas mal, dommage qu'il fasse pas du 120 Hz.
Ouais.
Voilà.
Fabrice pense que c'est pas son seul défaut,
On va pas recommencer la liste, ça sera trop long.
Mais par exemple, toi, tu en as commandé ou tu vas en commander un ou pas?
Non, mais en fait, je travaille souvent juste avec mon MacBook comme ça. Et ça me va bien, quoi.
Ça te
L'écran est
suffit.
super. Et ouais. Puis j'aime bien parce que ça me permet, en fait, du fait d'avoir un petit écran, ça me permet d'être plus focus.
Alors cette DubDub 2022, elle sera évidemment destinée aux développeurs, mais aussi aux étudiants. Et petit rappel, hein, si vous êtes étudiant, vous avez jusqu'au 25 avril, 8h59 du matin heure française, pour participer au Swift Student Challenge en soumettant le projet d'app de votre choix réalisé en anglais uniquement, attention. Soit avec Swift Playground 4.0.2, soit avec Xcode 13.3. Voilà, bon, à gagner, c'est pas dingue, hein, des sweatshirts ou des blousons WDC de 2022, des pins, un an d'abonnement gratuit au programme développeur Apple. Bon, c'est toujours ça de prix.
C'est important, la SAP, Benjamin.
Ah, bien sûr, c'est important.
Quand t'es étudiant, t'as oublié.
Mais non, bien sûr. Et puis bon, c'est collector, donc forcément, c'est important.
Et puis surtout, les gagnants ont leurs photos sur le site d'Apple. Et ça, je pense que ça vaut une partie de l'or du monde, si ce n'est tout, parce que. Donc, je suis désolé, Florent, tu vas pas pouvoir participer. T'es légèrement trop âgé.
Ah oui. Ouais. T'as eu ton diplôme depuis plus de 6 mois, je crois. Donc.
Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas, on sera évidemment au rendez-vous de cette dub-dub dès le 6 juin pour la keynote et puis pendant les 5 jours qui suivront. On te retrouvera peut-être à cette occasion-là, d'ailleurs, Florent.
Bah ouais, carrément. Moi, je serai de toute façon, j'ai pris ma semaine et je vais tout suivre. Je vais aller un maximum de sessions, prendre des rendez-vous avec les ingénieurs, faire tout ce qu'il faut faire pour capitaliser un maximum sur cette belle semaine. Et puis, je vais aussi rédiger plein d'articles pour MacG.
Bon bah génial, c'est dans
voilà.
moins de 2 mois, alors ça va arriver très très vite. Juste question comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura une autre keynote d'ici là?
Celle-là sera vraiment consacrée à Swift, c'est le logo de l'invitation à l'intérieur, c'est le logo de Swift, et j'ai cliqué sur le communiqué d'Apple sur Swift Playground, et c'était le même logo avec le même dégradé de couleur. Et à l'intérieur, c'était un bonnet de graduate dans les universités anglaises et américaines. Donc, c'est vraiment le focus sera mis là-dessus.
Bon, t'as pas répondu à ma question.
Je laisse la porte ouverte.
Escroc.
il met pas de pièce, ni n'en enlève une.
Fabrice.
Moi, je mets une pièce sur le fait qu'il n'y en aura pas. Je pense pas. Il y a eu déjà tellement d'annonces. Et puis, rappelons-nous à la fin de l'événement du 8 mars. Donc, John Ternus a dit « Bon, il ne reste plus qu'une seule machine qui n'a pas fait la transition. C'est le Mac Pro, mais c'est pour une autre fois, un autre jour. Je pense que c'est vraiment la préparation de la WWDC. Et puis, tout ce que vient de dire Florent aussi... Et comme l'a rappelé Gilles, le fait qu'ils vont travailler donc sur tout ce qui est multi-choses dans Swift, c'est aussi une préparation de ce Mac Pro qu'on attend encore plus multi-cœur que le Mac Studio, qui du coup, moi ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'ils vont probablement nous présenter le Mac Pro, probablement, forcément, là, nous présenter macOS 13 et nous dire le Mac Pro sera disponible au moment de macOS 13 parce que c'est dans macOS 13 qu'il y aura tout ce qu'il faut pour tirer parti des 78 cœurs de calcul qu'il y aura dans le Mac Pro. Et donc, d'ici là, il n'y aura rien d'autre, quoi. Ou peut-être un communiqué de presse pour dire qu'il y a des AirPods 2,5 et puis c'est tout.
Dans ce Florent, tu y crois, toi?
Ouais, non, c'est clair que, et s'il y a du matériel qui est présenté, ouais, ce sera à la dub, et par contre, peut-être plus de matériel qu'on l'imagine, peut-être, écoute, je serais pas fermé à recevoir un kit de développement de lunettes de réalité augmentée, le logiciel est prêt, et Apple lui manque juste le matériel pour une fois, donc c'est, voilà, je pense que c'est du je sais pas si ce sera cette année ou l'année suivante ou quoi, mais ça risque de taper très très fort parce qu'ils sont vraiment très très près sur tout ce qui est réalité augmentée au niveau software. Donc ça peut être assez énorme.
Pour toi, c'est potentiellement possible le 6 juin, ce fameux kit?
Ouais, un kit de développement qui aura une durée de vie d'un an, ouais.
Avec
ouais, parce
une
que vraiment, niveau soft, ils sont déjà très très bons. Au niveau matériel, même sur des iPhones, ça fonctionne quand même vachement bien. Mais après, c'est Apple, donc ils se mettent toujours à la barre un peu plus haut. Par exemple, les effets de lag ou ce genre de choses, ils laisseront pas passer. Alors que tous les autres laissent passer. Si tu fais 2 heures d'Oculus, t'es malade comme un chien, mais ça pose pas de problème à Facebook, quoi.
Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Florent, de nous avoir éclairé. Tu restes évidemment avec nous pour la suite de cet épisode. On se retrouve dans une poignée de secondes avec les news de la semaine. C'est Pommes. Et on commence par les bons calculs d'Apple sur les iPhones par abonnement. C'est une rumeur récurrente. Apple serait en train de travailler dessus de manière assez active. Et notre ami de Bloomberg, Mark Gurman, a pris sa calculette pour se rendre compte qu'effectivement, Apple serait extrêmement gagnant avec des tarifs d'abonnement relativement plausibles. Il est parti des tarifs de la gamme iPhone 13. Il est aussi parti sur des tarifs d'abonnement à 35, 45 et 50 dollars par mois. Et il a comparé ce que ça coûterait sur un an avec le prix de vente au comptant de l'iPhone 13, de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Max. Pour l'iPhone 13, en magasin, c'est 799 $ à partir d'eux. Avec l'abonnement, Apple empocherait 1260 $ sur un an. Dans le cas de l'iPhone 13 Pro, 999 $ pris en Apple Store, 1620 $ avec l'abonnement. Et pour le Pro Max, 1099 $ en Apple Store et 1800 $ avec un abonnement. Sachant qu'en moyenne, un utilisateur d'iPhone change de téléphone tous les 3 ans. Si on prend même le moins cher, hein, l'iPhone 13, là, 799 $ tous les 3 ans contre 1260 $ par an. Ça fait une grosse différence, tout ça pour un téléphone qui ne vous appartient jamais.
ça c'est la cerise sur le gâteau des bénéfices d'Apple quand même, parce que là on passerait justement en fait, tu vois, un autre modèle de vente qui est un modèle de location, comme donc une LOA de automobile, où si on décide de ne pas renouveler la LOA, il faut racheter le reste de la voiture. Et je ne sais pas si là ce serait proposé, mais c'est hallucinant. Et puis moi je reste coincé aussi sur cette idée que Apple pousse donc à renouveler son téléphone tous les ans, en tout cas très souvent, et je trouve que ça va vraiment à l'encontre de son discours écolo, et je suis très gêné par ça.
Florent, Qu'est-ce que tu penses de cette éventualité d'un iPhone sur abonnement?
Bah, moi, je dis pourquoi pas. Alors, sous deux réserves, si ça inclut du iCloud Plus et si ça inclut du Apple Care, bah, déjà, tu augmentes le tarif aujourd'hui. Parce que l'air de rien, ce service, ça commence à coûter un petit bras. Et ouais, si c'est un package tout compris, pourquoi pas. Après, c'est de la location, certes. Mais si c'est pour être revendu en deuxième vie, c'est pas mal. Il y a beaucoup de conditions.
Pour Apple,
en fait.
Oui.
Parce que, si Apple le revend en deuxième vie, pourquoi pas. En termes d'impact écologique, c'est pas mauvais. Et ça oblige aussi, si t'es en location, ça oblige à prendre soin de son appareil. Et donc, de pas être obligé de changer des pièces. Et du coup, ça fait un bilan carbone qui s'alourdit un petit peu, etc. Donc, faut voir les conditions. Il y a peut-être quelque chose d'assez sain, finalement, derrière. C'est peut-être pas une responsabilisation d'utilisateur, mais quelque chose comme ça.
Gilles,
On a discuté dans iFive. Ça va dans une tendance qui est l'usage et plus l'achat. Fabrice a parlé de la voiture. On a même maintenant l'entretien qui est compris. On a juste à poser s'asseoir. Il n'y a même plus de clé. On appuie sur le bouton, on démarre, on prend soin de sa voiture. Et puis, tout est pensé pour vous. Et puis, comme l'a très bien rappelé Florent, il y a une rumeur qui a couru avec qui est de l'ordre de l'info, quand c'est Mark Gurman qui soulève le point, c'est qu'il y aurait des services associés. Alors, il y a un troisième point, le dernier, c'est que quand les téléphones étaient vendus avec la subvention par les opérateurs, j'avais fait le calcul à un service égal entre la marque qui subventionne l'iPhone et l'équivalent de la même marque en service dégriffé, c'est-à-dire carré rouge de SFR, oui, ou l'équivalent chez Apple ou chez Bouygues, le prix sur 2 ans était à peu près, si on prenait un petit forfait, était à peu près du même ordre. Bon, c'était sur 2 ans et pas sur 1 an, mais il n'y avait pas de service qui était associé outre l'abonnement qu'on payait par ailleurs, quoi. Donc, je suis d'accord avec Florent également sur la balance écologique, puisque il est réinjecté de façon certaine dans le circuit et non pas il ne traîne pas dans un tiroir pendant des mois et des années, même si on sait que le marché de l'iPhone, le marché d'occasion de l'iPhone est beaucoup beaucoup plus vivace que celui d'Android.
On va passer à la deuxième news de la semaine, c'est cette languette qui est une petite révolution dans l'iPad Air 5, languette qui facilite le remplacement de la batterie, alors en SAV, a priori pas à faire vous-même, mais Fabrice, c'est le début de la fin après 12 ans de refus de la part d'Apple de réparer les iPads.
Oui, alors ça c'est un bon point. Donc les batteries dans les iPhones et les iPads sont collées au reste de l'iPad, au dos en aluminium par exemple, et ce sont des languettes qu'on tire, et ça permet d'enlever les bandes de colle et ensuite de retirer la batterie une fois qu'on a retiré les multiples vis. C'était pas possible ou facile sur un iPad, ça le facilite. Je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle, ça, encore au niveau écologique, sachant que les produits durent quand même assez longtemps. Le faire durer un peu plus longtemps en changeant la batterie, je pense que c'est vraiment une bonne idée. En revanche, effectivement, ne pas faire soi-même, hein, parce que les écrans sont eux aussi, ils tiennent avec de la colle. C'est très difficile à enlever. C'est un peu comme à plus petite échelle, mais un écran d'iMac, là où il faut des grandes ventouses pour les enlever, et on risque tellement de les casser en tirant dessus. Donc, Benjamin lève le doigt, donc ça lui est arrivé.
Oui.
Tu nous raconteras ça peut-être, mais voilà. Donc ne le faites pas vous-même, mais le fait de pouvoir changer sa batterie, moi je le conseille souvent pour les iPhones, c'est vraiment une bonne façon de faire durer son appareil. Donc avec l'iPad, tant mieux.
Ouais, Gilles, c'est symbolique parce que c'est que le début, hein, c'est vraiment une toute petite première étape, mais quand même.
Alors c'est une concession à l'air du temps là, par contre, et vraisemblablement aux législations. Pour moi, que ça soit plus facile d'accès pour les réparateurs, tant mieux, mais il faut le faire par les réparateurs, parce que je prends souvent l'exemple de l'huile de vidange. Les batteries, c'est quand même dangereux, c'est sale. Il ne faut pas les laisser traîner, il faut les faire recycler, d'autant que le lithium, s'il est récupéré, c'est aussi bien, il n'y en a pas des masses, quoi. Donc, faciliter la réparation, oui, super, mais pour les professionnels et pas pour les particuliers. Fabrice l'a très bien rappelé, c'est pas un sport de masse.
Florent ?
Complètement. Ouais, d'autant qu'un réparateur, quand il va commander des batteries, il va en commander une palette. Et tandis que si chacun commande sa petite batterie, ça fait autant de transport et autant d'emballage et ainsi de suite. Ça, c'est un peu la limite de la réparation chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est que du coup, ça fait X emballage, X transport, et ainsi de suite. Donc au final, c'est pas terrible.
Ok. Bon, la troisième news, elle concerne Apple TV+. Alors, il y a deux infos en une. La première, c'est que vous avez sans doute suivi les Oscars comme nous, et le geste de Will Smith qui est en train de se retourner contre lui, puisque... Le biopic qui était en phase d'enchères, on va dire, auprès des plateformes, dont Netflix et Apple TV+, eh bien, ce biopic se fera peut-être ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ce sera sans Apple et Netflix qui ont retiré leur enchère, considérant sans doute que Will Smith était un sujet un petit peu touchy en ce moment. Est-ce qu'il sera infréquentable sur une plus longue durée, j'en sais rien. En tout cas, il y a une série qui s'appelle Émancipation qui est prévue sur Apple TV+ cet automne, une série sur l'esclavage. Will Smith est au générique, a priori, elle est toujours prévue. Et puis, il y a quand même une vraie bonne nouvelle pour Apple TV+, on va dire. C'est l'arrivée d'Harrison Ford dans une série, une comédie même, qui s'appelle Shrinking. Le tournage doit commencer là courant avril, donc c'est imminent. La diffusion est prévue pour l'an prochain. Et il va jouer le rôle d'un médecin, d'un spécialiste de la thérapie cognitive comportementale. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai très très hâte de découvrir Harrison Ford dans un rôle, dans une série, dans une comédie. Ça va être la première fois pour lui et pour nous.
Alors, c'est pas la première fois qu'il fait une comédie. C'est pas une comédie d'action, donc, parce que, ses talents de comédie dans Indiana Jones, on les connaît quand même. C'est
pas faux.
Je sais pas vous, mais enfin moi, il m'est arrivé de rire pendant Indiana Jones.
Ah oui.
Hein, c'est pas voilà. Donc,
mais c'est plus un film d'aventure, on va dire, qu'une comédie.
Oui, c'est pour ça que je disais que c'est une comédie sans le côté aventure-action. Voilà. Ça me fait penser à un détail. Il y a peut-être parmi nos auditeurs francophones qui ne savent pas que le mot shrink en anglais, donc qui s'écrit S-H-R-I-N-K, ça veut dire psy. C'est un mot d'argot pour dire psy. Donc voilà pourquoi ça s'appelle shrinking, qui est un jeu de mots aussi sur to shrink qui veut dire rétrécir.
Faut de fois qu'il y a quelque chose qui rétrécit chez Apple.
Ben justement, c'est pas le sens, c'est plutôt le. Le shrink, le psy, en fait. Bon, Florent, tu seras client, toi, d'une série avec Harrison Ford sur Apple TV+.
Pourquoi pas. Globalement, je suis assez bon client d'Apple TV+. Ils ont plutôt des bonnes productions, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Et puis, on va finir, Gilles, avec cette étude que tu as remarquée sur le succès des produits Apple auprès de la jeune génération.
Oui, c'est plutôt un marronnier, puisque Piper Sandler livre son étude tous les 6 mois, et on est dans la répétition. Hein. La demande pour l'iPhone 13 est forte, et parmi les des objets technologiques les plus désirés par les ados, les plus achetés. On a l'iPhone, les AirPods et les Apple Watch. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et c'est important parce que, je le rappelle chaque fois, en décembre 2001, il y avait une étude de ce type sur l'image d'Apple parmi les classes, les différentes classes d'âge. La courbe ascendante suivait la courbe des âges, c'est-à-dire que au niveau des ados, la popularité d'Apple, de la marque Apple, était minable, voisine de 10%, et elle montait au fur et à mesure qu'on les classes d'âge augmentaient, et elle culminait à 80 pour la catégorie des 70 à 80 ans. Donc on a vraiment quelque chose de prometteur, parce que ce sont d'abord les prescripteurs au niveau des adultes, et puis les jeunes adultes à fort pouvoir d'achat de demain.
Une réaction.
Et ils consomment du service.
Plan.
Après, c'est vrai que je pense que les jeunes sont plutôt intéressés du fait de aussi qu'Apple sait bien se renouveler globalement. Et je pense qu'Apple gardera toujours un public un peu plus âgé, dans le sens où c'est pas spécialement pour l'effet de mode, mais où ils sont vraiment très très forts sur l'accessibilité. Et quand tu deviens presbyte et que t'as pas envie de prendre tes lunettes, et ben tu t'écris ton texte en gros dans ton iPhone. Ça marche du tonnerre, et je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça.
Alors pour compléter ça, je pense qu'il y a aussi une histoire de prix. Quand on offre un smartphone à un gamin de 10 ans, 12 ans, 13 ans, on commence plus facilement avec un Android à 200€ qu'avec un iPhone qui va commencer à 500. Je sais pas s'il y a une différenciation dans l'étude que j'ai pas vue, je trouve ça intéressant, mais par exemple à l'Apple Watch, alors il y a le côté marque Apple, l'Apple Watch aussi, en gros, si on veut une montre un peu connectée, il n'y a quand même pas grand chose d'autre, quoi. C'est marrant, je trouve qu'avec l'Apple Watch, on retrouve l'effet de halo que Apple avait voulu faire autour du Mac, et plutôt autour de l'iPod. À l'époque, c'était on a un iPod et on commence par. Pardon, Gilles ?
C'était l'iPod, l'effet oui. De halo.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut se fier au spécialiste de l'iPod qui est Gilles. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est ça. Il y a plein d'histoires de gens qui ont une Apple Watch et on leur dit tiens, tu veux pas essayer? Regarde, par exemple, il y a un téléphone pliable. Ah oui, c'est intéressant, c'est pliable. Je vais peut-être essayer. Mais attention, ça marche pas avec l'Apple Watch. Ah bah, j'en veux pas alors. Et là il semble qu'il y ait vraiment ça autour de l'Apple Watch. Je trouve ça vraiment intéressant.
Le chiffre. C'est 87% des 7100 ados qui ont été américains, qui ont été interrogés dans 44 États américains, qui possèdent un iPhone. Donc l'effet de halo, excusez-moi, c'est pour l'iPhone. Et c'est la même chose. Bon, je suis tombé à plat. C'est la même chose que il y a 6 mois auparavant, on avait 86%.
Non, mais je viens de comprendre.
Moi aussi.
C'est nous qui sommes trop lents. Pardon, Gilles.
Voilà, on est très lents. J'étais en train de me demander si c'est ce que... Bon, merci en tout cas, Gilles, pour cette news. On marque une toute petite pause et on se retrouve pour les mises à jour de la semaine. Ça va intéresser Florent. À tout de suite. Et c'est donc parti pour une nouvelle séquence de version bêta des OS, n'est-ce pas Florent ? Alors, ce sera peut-être la dernière avant la dub-dub, hein, mais les bêta 1 développeurs sont arrivés il y a quelques heures pour iOS, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, watchOS 8.6 et macOS Monterey 12.4. Est-ce que tu as pu jeter un œil à certaines de ces bêta, Florent ?
Oui, j'ai installé iOS 15.5 et il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a a priori quelques améliorations qui traînent ici et là, mais c'est surtout réservé aux Américains. Et voilà, après, on n'a pas eu de nouveau Xcode, ce qui signifie qu'il n'y a pas de fonctionnalités nouvelles accessibles aux développeurs. Il y a probablement des fixes qui ont été faites, des correctifs, et peut-être aussi des correctifs par anticipation de iOS 16, ce qui serait pas non plus délirant. Voilà, donc rien de spécial pour le moment. Et d'ailleurs, tous les correctifs ne sont pas encore passés.
Ouais. Fabrice, fonctionnellement, il y a quelques petites choses qui semblent bouger quand même.
Alors, on a vu apparaître, semble-t-il, une référence à Apple Classical, le service de musique classique dans musique. Voilà, donc on se rappelle que, et j'ai encore oublié le nom, mais du coup Benjamin va nous le rappeler parce qu'il l'a déjà fait dans i5. Primephonic. Donc Apple avait acheté ce service spécifique à la musique classique qui va vraiment être intéressant. Au niveau de l'application carte, alors comme disait Florent, ça touche beaucoup les Américains parce que ça touche par exemple le service Apple Cash qui permet d'échanger de l'argent entre particuliers. Il y a quelques améliorations, des choses comme ça, et des changements de nom, donc et des facilitations pour s'échanger de l'argent. Et puis, on a vu aussi qu'il y a les cartes prépayées qui s'appelait justement iTunes Pass, donc devrait changer de nom pour devenir Apple Pass. Donc c'est sûrement une page qui se tourne, c'est-à-dire que le mot iTunes, le nom iTunes va disparaître. Alors on parlait du effet de Halo tout à l'heure qui est beaucoup passé par iTunes et le fait que ce mot disparaisse petit à petit est quand même assez signifiant dans le changement d'époque.
Bon, ça c'était pour les prochaines versions, la bêta 1 pour les développeurs et donc pas encore pour le commun des mortels a priori. Maintenant, vendredi dernier, donc il y a moins d'une semaine, sont arrivées les nouvelles versions officielles en point 1 des OS, donc iOS et iPadOS 15.4.1, tvOS 15.4.1, watchOS 8.5.1 et macOS Monterey 12.3.1. On se disait dans i5, Fabrice, qu'il n'y avait aucune raison de ne pas faire ces mises à jour. Hein.
Non, effectivement, c'est on en est à ce moment-là à des correctifs de correctifs. Peut-être que Florent aura plus de choses que nous à nous dire, mais là on est vraiment au point 1, il n'y a pas de... Voilà, ça corrige quelques choses. Alors, quelques petites choses qui sont importantes au niveau de l'autonomie de batterie. C'était le cas, donc on avait évoqué ça pour la 15.4, que certains se plaignaient d'une autonomie en baisse sur les iPhones. On avait un peu glosé sur le fait que Apple avait répondu en disant il faut attendre. Attendre 2 jours, il faut toujours attendre 2-3 jours après la mise à jour d'un système sur iPhone notamment, parce que le système doit faire beaucoup de réindexation, des photos, de tout un tas de trucs, et ça consomme de l'énergie supplémentaire par rapport à l'usage normal. Bon, visiblement, il y avait un message caché dans ce qu'a dit Apple, il faut effectivement attendre 2-3 jours le temps qu'on sorte un correctif. Donc voilà, maintenant c'est fait et vous pouvez y aller.
Florent, est-ce que tu as des choses à dire sur ces mises à jour qui sont arrivées vendredi?
Ouais, surtout elles corrigent des failles, une faille importante de sécurité qui a priori n'a pas été exploitée, hein, c'est une faille zéro day comme on dit. Et voilà, par contre, j'ai regardé un peu, c'est quand même une sacrée faille. Si potentiellement elle a été exploitée, c'est pas terrible. Donc c'est bien de mettre à jour son smartphone régulièrement, surtout en cette période où c'est un peu compliqué. Ce serait dommage de servir d'un appareil zombie qui permettrait de faire n'importe quoi.
Voilà, bon, donc faites les mises à jour, en tout cas les mises à jour officielles finales qui ont été publiées par Apple à la fin de la semaine dernière. Merci pour ce petit point mise à jour. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir un photographe que Tim Cook a mis en valeur il y a quelques jours. Ce sera dans le focus de Gilles, à tout de suite. Le focus de Gilles avec toi, mon cher Gilles Dounès. Tu vas nous faire découvrir un photographe qui s'appelle Anthony Ryan Schmidt. Qui est-il ?
Oui, c'est un jeune homme de 14 ans qui est atteint de troubles de la sphère autistique. Et Tim Cook a tweeté le 2 avril dernier, qui était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et il a publié un tweet qui mettait en valeur son travail avec les photos qu'il a réalisées, et puis la façon dont il travaillait avec un iPhone et un pied. On va voir tout à l'heure, mais le résultat est vraiment bluffant. Il photographie des reproductions de voitures miniatures, qu'elles soient anciennes ou modernes, en les mettant en situation dans un décor qui mêle à la fois le décor à l'échelle qu'il fabrique lui-même, et puis l'environnement à taille réelle, avec un rendu vraiment saisissant. Il y a une vraie poésie dans ces clichés, et ça renvoie fréquemment à l'imaginaire de l'Amérique, avec les vieux modèles des années 30, 40 ou 50, ceux de Cars, le film d'animation de Pixar, en train de prendre la poussière au fond d'une vieille grange, ou carrément de rouiller au fond du jardin. Je suis sûr que ça plairait beaucoup à Alex Lenoir, qui était notre invité il y a quelques semaines. Et puis ça marche pour lui, parce que il y a un groupe Facebook autour de son travail qui regroupe plus de 29 000 membres, et il a publié en 2020 un bouquin de 132 pages à partir de son travail, grâce à un projet Kickstarter, qui a tout de même réuni plus de 45 000 dollars, apporté par plus de 700 contributeurs. Et le titre dit tout, Small Cars, Big Inspiration. Alors, on est aux États-Unis. Ici en France, quand on a une passion, on monte une association loi 1901. Là-bas, on monte une petite société qui peut d'ailleurs devenir grande. Et logiquement, quand vous arrivez sur le titre d'Anthony Schmidt, vous tombez sur sa boutique où vous pouvez acheter son livre, des tirages, des cartes postales, des t-shirts ou des calendriers. Et pour Tim Cook et Apple, c'est la même chose. Tim Cook ne s'est pas privé de joindre le hashtag Shot on iPhone à son tweet. Et c'est d'ailleurs sûrement comme ça que l'équipe d'Apple en charge l'a repéré, mais l'essentiel n'est pas là. D'abord, ça fait longtemps qu'il y a des filtres pour transformer une scène réelle en miniature, que ce soit pour une photo ou même une vidéo, en floutant dans la périphérie, tout en conservant net le centre de l'image pour simuler la profondeur de champ. Mais ici, c'est l'inverse, et c'est particulièrement futé. Ça montre bien que les troubles de la sphère autistique, c'est pas seulement quelque chose de gênant, un handicap dans la vie courante, mais c'est également une sensibilité et même un style cognitif différent. Et on en vient au deuxième point. C'est bien cette différence sous tous les rapports qu'Apple essaie de mettre en valeur et de prendre en compte, et ce depuis le début. On en a parlé ici déjà, mais il y a quelque chose de fondateur dans la démarche d'Apple. En 1984, ça va te faire plaisir, Benjamin, puisque on va parler de Steve Jobs. Justement, Jobs avait donné une interview où on l'interrogeait sur la démarche à l'origine de la création du premier Macintosh. Il avait répondu que ce que l'équipe attendait avec impatience, c'était de voir dans un an ou deux ce que les personnes entre les mains desquelles on avait mis un Mac auraient fait avec leur machine. Alors ça fait belle lurette que l'iPhone a dépassé la puissance de calcul du premier Mac 128, mais on est là au fondement même de la démarche de la firme à la pomme, quelle que soit la raison par ailleurs qu'on peut avoir de le critiquer. Alors je vous donne l'adresse du site,
ouais,
anthonyryanschmidt.com.
Super Gilles, merci beaucoup pour cette découverte. On va aller découvrir et j'en suis sûr apprécier les photos de ce jeune photographe. Merci pour ce focus. Allez, une courte pause et les rumeurs de la semaine. C'est une petite semaine côté rumeurs, les amis. Trois rumeurs seulement. C'est quasiment le mois d'août. Mais bon, on va commencer. Une fois n'est pas coutume.
Rassure-toi, toi, ça va reprendre dès qu'on va se rapprocher de la WWDC.
J'en suis sûr. On va commencer par les bruits de couloir alimentés par Ming-Chi Kuo, qui ne lâche pas son compte Twitter et qui nous parle des prochains AirPods Pro, la deuxième génération. Selon lui, ils ne coexisteront pas avec les AirPods Pro de la première génération une fois qu'ils seront sortis au deuxième semestre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'Apple a appris de son erreur. Apple regretterait d'avoir maintenu les AirPods 2 au catalogue à la sortie des AirPods 3, parce que les AirPods 2 sont moins chers et du coup les AirPods 3 se vendent moins bien que prévu, à tel point qu'Apple aurait revu les quantités à la baisse de 30% sur les deuxième et troisième trimestres. Je te posais la question dans Hi-Fi Fabrice, je vais la poser à Gilles. Est-ce que c'est une erreur dans la stratégie de segmentation produit, comme on dit?
Alors, on peut voir ça comme ça, on peut se souvenir que l'ancien modèle a toujours coexisté, cohabité avec le tout dernier, tout neuf et très attractif, pour l'iPhone ouais. en particulier.
Oui, c'est ça.
C'est le cas pour les Mac. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aux AirPods qui sont un accessoire, quelque chose qui est cher, tu l'as rappelé? Est-ce que, du coup, comme c'est une nouvelle classe de produits, Apple est en train d'apprendre en même temps qu'il fait, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien.
Florent, tu faisais une drôle de tête. Tu avais l'air surpris quand je donnais cette info, cette rumeur.
Ouais, c'est...
Qu'est-ce qui t'étonnait ?
C'est à voir. C'est à voir. En général, quand même, Apple a tendance à laisser un peu ses produits continuer, mais bon... C'est sur deux générations, quoi, en fait. Au moins sur deux générations, avoir une version peut-être un peu plus accessible et peut-être aussi pour écouler les stocks. Mais bon, à voir. Il y a peut-être des bonnes raisons à ça.
Fabrice ?
Oui, je voulais ajouter une réflexion à ça, c'est que le fait de garder notamment des iPhones de génération précédente au catalogue, il y a quelque chose d'assez évident. On sait que c'est l'iPhone de l'année d'avant. Les AirPods changent pas tous les ans et donc d'un côté il y a une gamme d'iPhone avec des capacités très différenciantes. En revanche, entre des AirPods 2 et des AirPods 3, il y a des différences au niveau du design, mais sur l'usage, c'est la même chose. On voit bien la différence entre des AirPods tout court et des AirPods Pro, puisqu'il y a l'annulation de bruit, donc on peut faire la différence et on peut justifier un achat plus cher. Je pense que c'est vraiment plus difficile entre des AirPods 2 et des AirPods 3, donc si la rumeur s'avère, on verra bien, en plus hein, c'est donc une rumeur, ce serait aussi un élément d'explication, je trouve.
Ok, on passe à la deuxième rumeur de la semaine, elle concerne l'Apple Watch et plus particulièrement la version sport ou baroudeur qui avait été annoncée initialement pour l'an dernier, elle semble plus que jamais sur les rails, notamment à la lumière d'un brevet déposé par Apple, qui indique que l'étanchéité et la résistance à l'eau et à la pression sont l'un des sujets majeurs de recherche liés à ce projet. Est-ce que c'est une montre qui pourrait t'intéresser, Florent ?
Alors, je suis pas un grand sportif, donc sur cet aspect, non. Sur bien d'autres aspects, oui. Mais c'est vrai que par contre, connaissant quelques sportifs qui ont tendance à y aller un peu fort, ça peut être par contre une raison d'achat hein, pour ouais. Ça, c'est parce qu'en tout cas aujourd'hui, la potentielle fragilité de la watch est un critère qui empêche d'aller vers la watch. Ça c'est clair.
Fabrice.
On a vu que Apple avait déjà fait une petite démonstration de meilleure résistance de l'Apple Watch Series 7 dans les films de présentation. On voyait un cycliste tomber sur des cailloux, donc il disait regardez, ça résiste un peu mieux. Donc visiblement, ils font des recherches dans ce sens-là. Puis je voudrais lier ça à la recherche d'étanchéité au brevet dont on a parlé dans la dernière émission de. Un brevet déposé qui permet d'avoir un bouton qui réagit à la pression sans bouger. Hein. Donc c'est un bouton qui n'est plus mécanique, qui n'est juste qu'à détection de pression et qui participe à ça potentiellement pour améliorer l'étanchéité de la montre. Donc tout semble se mettre en place pour qu'il y ait un modèle comme ça qui soit un peu l'équivalent des G-Shock chez Casio, je crois.
Gilles, tu as un avis sur cette montre sport ?
Je suis pas sûr. Bon, on peut tout... Apple peut tout essayer, hein, même faire des bracelets par un bagagiste de luxe. Bagagier de luxe, je sais pas comment on dit.
Un bagagiste, mais avec le chapeau.
Un bagagier de luxe, mais je verrais plutôt ça embarqué comme sur tous les modèles, enfin le dernier modèle en date, comme un argument de vente supplémentaire dans la mesure où au départ, au fondement même du produit, il y a l'activité sportive. Donc, le durcir et aller plus loin et se différencier par rapport à la concurrence. Oui, un modèle supplémentaire dans une gamme qui en compte déjà pas mal. J'en sais rien et je suis pas sûr du tout, quoi.
Bon, on va passer à la troisième rumeur. Et là, désolé Fabrice, tu connais Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans.
Eh oui.
Selon Ross, il va falloir que tu attendes septembre 2024 et trois générations d'iPhone pour voir apparaître la technologie Face ID sous l'écran.
Oui, alors, mieux vaut tard que jamais. ça ne m'a pas empêché d'avoir un écran potentiellement percé pour la caméra. N'oublions que Face ID, même si c'est contre-intuitif, n'utilise pas la caméra. Utilise un projecteur de points infrarouges et des choses comme ça. Donc, et on a vu aussi jusqu'à présent, ça changera peut-être d'ici l'iPhone 16, les quelques essais de caméra sous l'écran ont montré des résultats plus que décevants en termes de qualité de photo. Donc pour ce qui est de la caméra selfie, tout ça, ça va pas être... Donc il y aura toujours un trou dans l'écran. Mais comme je le disais en introduction, tout ce qui permettra de réduire l'encoche, que je trouve toujours aussi moche et pas pratique depuis les 4 ans que j'ai mon iPhone 10, je suis pour.
Bon, alors ça, c'était Ross Young avec Face ID. Au même moment, on avait Ming-Chi Kuo sur le Touch ID. Et alors, le Touch ID sous l'écran, hein, c'est ça que je veux dire. Alors, selon lui, le Touch ID sous l'écran serait pour l'iPhone 15. Ah, attention, iPhone 15, on est en 2022, ça veut dire septembre 2023. Ce à quoi Ross Young, justement, parce qu'ils se suivent, hein, a répondu sur Twitter toujours que Touch ID sous l'écran n'est plus dans les projets d'Apple, contrairement à Face ID sous l'écran. Bon, si vous avez compris quelque chose. Est-ce que tu as un avis sur la question, Florent ?
Ouais, je pense que la mise à jour de iOS 15.4 qui a permis d'utiliser les masques. En fait, d'utiliser Face ID avec le masque, ça a quand même été déclencheur de quelque chose côté Apple. C'est-à-dire que généralement, si tu utilises Touch ID, c'est plutôt parce que tu peux l'utiliser même si on voit pas très bien ton visage. Et là, avec ce nouveau mécanisme, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Et notamment avec les fameux masques où bah ouais, ça marche, quoi. C'est plutôt chouette de pouvoir déverrouiller son iPhone même si on n'a pas de watch. Donc ça, c'est plutôt... Je pense que ça a vraiment pesé dans la balance.
Plutôt en faveur de Face ID sous l'écran.
Plutôt en faveur de Face ID et du coup plutôt optimiser le du moins que ça prenne moins de place, quoi. C'est ça.
Bon bah à suivre, hein, comme on dit. On se retrouve dans un instant. Les coups de cœur de la semaine arrivent, mais d'abord le tuto audio. Tout simple. Comment vérifier quels appareils sont connectés à votre compte iCloud ? À tout de suite. Bon alors vous, je ne sais pas, mais moi j'ai eu et j'ai testé un certain nombre d'appareils Apple depuis toutes ces années, à tel point que ce tuto en fait m'est bien utile. Comment vérifier quels appareils sont connectés à votre compte iCloud ? Alors l'intérêt numéro 1, c'est pour les parano, hein, c'est de vérifier que personne ne s'est branché sur votre compte à votre insu. Bon, il y a quand même assez peu de chance. Voilà, si vous avez activé l'authentification à deux facteurs, c'est quand même assez peu probable, hein, parce que vous auriez été prévenu. Si la localisation change de ce qu'elle est habituellement, vous auriez été prévenu aussi. Et même iCloud pour Windows est relativement bien sécurisé. N'empêche, Apple tient à jour une liste de tous les appareils connectés à votre compte iCloud. Alors cette liste, elle réunit les Mac, les iPhones, les iPads, les Apple Watch, les Apple TV, les HomePod, les HomePod Mini, les appareils sous Windows et n'importe quel Smart TV équipé du logiciel TV d'Apple. Ça fait quand même quelques possibilités. Alors pour accéder à cette liste, il y a trois moyens. D'abord, il y a le site que vous connaissez, appleid.apple.com. Vous vous authentifiez, vous cliquez sur « Appareil » dans la partie gauche et la liste apparaît. J'ai compté, j'en ai donc 25. Sur iPhone ou sur iPad. Deuxième moyen, vous allez dans les réglages Puis, vous cliquez sur votre nom tout en haut, vous scrollez vers le bas et tous vos appareils apparaissent aussi les uns en dessous des autres. Et puis, troisième moyen, si vous êtes sur Mac, ça se passe dans les préférences système, vous cliquez sur « Identifiant Apple » tout en haut et la liste de vos appareils est dans la colonne de gauche. Et puis, il y a une quatrième méthode, mais elle est réservée à Windows. Vous allez dans « Détails du compte », puis « Gérer Apple ID ». Voilà, en cliquant sur chacun de ces appareils, vous obtenez plein d'infos, son numéro de série, si localisé est activé ou pas. En tapant ou en cliquant dessus, vous pouvez le supprimer de la liste et ainsi vous le déconnecterez de votre compte iCloud. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que vous avez une idée, chacun, du nombre d'appareils connectés à votre compte iCloud là, à cet instant ? Florent ?
Trop. Je pense qu'il y en a trop, c'est tout. C'est vrai qu'en tant que développeur, j'ai je ne sais pas combien d'iPad et d'iPhone que... D'ailleurs, Back Market tourne pas mal avec moi parce que, évidemment, je ne vais pas en acheter des neufs. Et donc, j'essaye d'avoir des générations. Et quand différentes générations, quand il y a un bug sur une génération précise, j'essaye de le récupérer d'occasion pour pouvoir tester et ainsi de suite. Donc, ça n'arrête pas de tourner. Je ne saurais pas dire. Il y en a beaucoup trop.
Fabrice ?
Alors, pas trop, parce que je connaissais la méthode et j'ai tendance à faire le ménage assez vite pour éviter la liste interminable, d'autant plus que quand on a le partage familial installé, si on va dans l'application localisée, on voit aussi les appareils des autres membres de la famille. Donc si, en plus, je laissais tous ceux que je teste dans la liste, ce serait interminable et pas possible.
Gilles, t'as une idée ?
Oh, une bonne dizaine, une quinzaine, mais parce que... j'ai des survivants, un 4S qui sert de jukebox, par exemple, quand, pour une bibliothèque locale, quand j'utilise pas Apple Music. Puis voilà, il y a deux ou trois appareils, une ou deux générations de chaque appareil qui sont là, oui.
Bon, en tout cas, vous avez au moins les clés maintenant pour faire un petit ménage de printemps. Les coups de cœur de la semaine, on va commencer par toi, Florent. Quel est ton coup de cœur cette semaine ?
Alors moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est l'application Vivid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en fait, c'est deux développeurs qui ont conçu une application qui permet de régler au maximum le maximum de luminosité de l'écran des nouveaux MacBook Pro. Donc c'est vraiment, on gagne beaucoup en luminosité et ah ça oui. Utilise des API systèmes, donc c'est vraiment pas du bricolage. Et je l'ai testé et c'est génial parce que les beaux jours vont arriver et donc pour travailler en extérieur c'est parfait, même si il y a forcément un impact côté batterie.
Bien sûr.
La batterie est déjà énorme, donc de toute façon ça fera largement la demi-journée et c'est cool de pouvoir bosser en terrasse quoi.
Alors, comment est-ce que tu expliques qu'Apple ne permette pas directement de pousser la luminosité à fond par défaut, je veux dire, dans le système ?
Je pense que c'est pour économiser la batterie, et tout simplement. Et peut-être l'usure aussi.
Et c'est quoi le gain en termes de luminosité ? C'est un petit peu, c'est beaucoup ? Et quelle est la réserve, entre guillemets, que cette application permet d'exploiter ?
Je pense qu'il y a bien 10-20% de luminosité en plus à l'œil comme ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version gratuite qui est proposée de l'outil. Et ça permet, en fait, la version gratuite split l'écran en deux. T'as la version avec le maximum Apple et à droite leur maximum à eux. Ou l'inverse, du moins. Et comme ça, tu vois la différence, quoi. Tu peux tester et après, si t'es content, tu prends la version qui va propager cette belle luminosité sur tout l'écran. Et voilà, c'est vrai qu'on... C'est chouette, c'est bien joué et c'est chouette.
Alors, tu la trouves où et combien elle vaut cette petite appli ? Génial.
Alors, le site, ça doit être de getvivid.com, je dirais.
Getvivid.com.
Ouais, je crois que c'est ça. Je suis pas certain de l'URL, mais non, c'est pas ça.
Le domaine est à vendre en tout cas si t'intéresses.
Ouais,
je viens d'en faire augmenter le prix, c'est malin.
Ouais. Et elle vaut une quinzaine d'euros, mais on peut avoir 20% de réduction si on la commande avec un code qui a été donné sur Twitter par Vivid. Donc, il faut retrouver le compte de Vivid. Et voilà. Tac. Attends, je suis en train de retrouver le nom. C'est getvivid.app.
Voilà, oui, c'est ça. Et la licence vaut 15 dollars. 15 euros.
15 dollars. Ouais, 15 euros. Et tu peux l'abaisser donc, en utilisant la promotion qui doit être de 20% et qui doit être Vivid de Launch tout en majuscule.
Voilà. Et eux annoncent un doublement de la luminosité de
l'écran. C'est probable. En tout cas, c'est vrai que c'est significatif. Hein, c'est incontestablement.
Ils parlent de 1600 nits.
Mais en fait, je pense que ça.
Au lieu de 1000, Le
Apple a annoncé, quand ils ont annoncé l'écran, ils ont dit que c'était 1000 nits avec. Pour des périodes réduites, 1600 nits pour faire du HDR quand on regarde un film, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est des API intégrées au système. C'est que donc, le système est capable de le faire dans des conditions spécifiques pour regarder des films. Et puis du coup, ils ont tapé dedans pour pouvoir le proposer tout le temps. Hein. Parce que 1600 nits, même si on est à l'intérieur, il faut des lunettes de soleil pour regarder l'écran. Quoi.
C'est sûr. Gilles, as-tu un coup de cœur ?
Oui, on a parlé il y a quelques semaines d'un studio de développement ukrainien. Je voulais en faire autant avec un autre qui est basé à Odessa, qui s'appelle Belight Software, et qui propose un certain nombre d'applications qui sont sur l'App Store. Et en pensant à François qui est en train d'aménager maintenant dans sa nouvelle maison. Il y a une application d'abord d'agencement intérieur, mais qui permet également de faire une maison et de modéliser un jardin, par exemple, qui est très accessible, qui s'appelle Live Interior 3D. On peut l'acheter en version pro, qui permet d'aller plus loin que la version de base, mais la particularité, c'est qu'on peut aussi la louer pour une période donnée. Quand on a besoin de faire des plans, on pense à refaire son intérieur. On n'est pas forcé d'acheter définitivement une application, même si le prix est tout à fait accessible. Il y a d'autres applications du studio, je pensais que ça pouvait les aider. L'appli est bien, et puis on retrouve cette notion d'usage, non plus de possession. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On n'est pas dans l'abonnement, on est juste pour une période donnée.
Rappelle-nous comment s'appelle l'éditeur.
Belight Software.
Voilà, donc à Odessa, donc en Ukraine, c'est là où ça se passe et où ça se passe. A priori de plus en plus mal ces jours-ci, donc on pense à eux. Je précise, Gilles, que tu les as contactés.
Et on a demandé, j'ai demandé comment on pouvait les aider. Là, ils étaient à fond dans le développement, toujours à travailler, le support utilisateur. Et ils ont dit, si vous voulez vraiment nous aider, donnez pour les organisations qui ont un compte spécifique pour l'Ukraine, il y a le CICR, il y a l'UNICEF, la Croix-Rouge également, et puis sinon on peut également donner directement à l'armée ukrainienne.
Ouais, via le site du gouvernement. Merci Gilles pour ce coup de cœur, et on pense aussi à MacPo, qui est l'autre éditeur ukrainien que tu as évoqué il y a quelques instants, l'éditeur de Clean My Mac notamment. Fabrice, ton coup de cœur de la semaine.
Alors mon coup de cœur, c'est un coup de cœur en forme de petit sourire et de salutation à notre auditeur, contributeur et aussi mon camarade Gérald, qui est en Chine pendant quelques temps et qui m'a envoyé des photos d'Apple Store d'un autre style que celui auquel on a l'habitude de voir dans nos contrées. Et alors pour ceux qui ont la vidéo, je vais montrer quelques photos qui m'a fait parvenir, et on voit des produits Apple dans des drôles de situations, mais je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'image, Là, c'est une photo d'un carton d'iMac posé à côté de boîtiers de PC posés par terre avec du scotch. C'est quand même pas très beau. Mais en fait, alors tout ça, ça vient de pour le contexte. Il y a un quartier qui s'appelle Saibo dans la ville de Tianjin, là où il est, où on peut trouver des endroits répartis sur plusieurs étages qui vendent tout et tout ce qu'on veut en termes d'électronique. Ça m'a rappelé pour ceux qui sont un petit peu âgés comme moi et qui habitaient Paris à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez d'un magasin qui s'appelait Surcouf.
Bien sûr.
Alors Surcouf, c'était donc une sorte de foire où tout était un petit peu réparti n'importe comment et on se baladait là-dedans pour trouver le câble de ses rêves ou le modem 56 bits qui allait bien. Et c'était le bazar, quoi. Voilà. Alors il faut imaginer, pour ceux qui se rappellent, ce Surcouf multiplié par 1000 et vous avez ce qu'il y a en termes de surface et dédié à ce genre de truc. Alors, et on trouve donc des magasins un peu bizarres où les logos se mélangent. Donc là, il y a un stand avec le logo Apple à côté du logo Oppo, à côté du logo Huawei, à côté du logo Xiaomi. Et on trouve un peu de tout ça. Et voilà, donc c'est assez marrant. Et alors là, par exemple, voir un logo Apple à côté de la marque Samsung, c'est quand même assez étonnant. Donc tout est mélangé là-dedans. Et on parlait des batteries tout à l'heure. Alors on voit aussi, il y a des endroits qui vendent des batteries. Il y a marqué, on voit des piles de batteries pour MacBook Air. Il y a marqué Apple Original Product. On a des raisons d'en douter malgré tout, hein, parce que c'est présenté un peu bizarrement, le logo.
Oui.
Voilà.
Hein, le design a l'air un petit peu particulier.
Voilà. Et donc,
fait à la va-vite.
C'est fait à la va-vite, entièrement à la main ou presque. Mais voilà ce qu'on trouve. Et puis alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que voilà quoi peut ressembler à un Apple Store en Chine. C'est ça. donc on voit,
c'est un comptoir, oui.
Ouais. C'est un comptoir en bois qui visiblement a un peu vécu. Il y a le logo.
Ça fait années 70 un peu. Hein.
Voilà. Il y a marqué Apple Store dans un truc un peu éclairé au-dessus. C'est même pas bien éclairé. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec Apple. On a même au premier plan là, il y a un tabouret complètement pourri, voilà. Donc ça m'a bien fait rire de voir ces photos où on peut aller dans un Apple Store qui n'a rien à voir avec Apple et qui n'a pas grand-chose à voir avec un store non plus. Et ça, c'est en concurrence des Apple Store qui existent aussi en Chine, par Apple, qui sont aussi beaux que tous les autres Apple Store qu'on connaît, les centaines d'Apple Store répartis dans le monde. Mais il y a aussi cet aspect... qu'on connaît, en tout cas qu'on découvre là en Chine, où c'est fait de briques et de brocs, mais il y a quand même marqué Apple Store dessus. Voilà, je trouvais ça rigolo, je voulais partager ça avec vous et à ceux qui ont la chance d'avoir la couleur.
Ah, bien merci Fabrice pour ce coup de cœur extrêmement visuel cette semaine, et merci et merci à ton honorable correspondant en Chine aussi.
Merci à mon honorable correspondant Gérald
pour ces photos. Gérald. Merci Gérald. Bon, moi, mon coup de cœur de la semaine, il est pas très original, mais j'ai enfin vu Coda, qui a reçu l'Oscar du meilleur film il y a 10 jours maintenant à Hollywood. Alors, c'est un chouette petit film. Le casting est impeccable. Troy Kotsur a bien mérité son Oscar du second rôle masculin. C'est un vrai plaisir de retrouver Marlee Matlin. Je sais pas si vous vous souvenez, elle est sourde comme lui. Elle avait été la première actrice sourde à décrocher un Oscar, c'était il y a 35 ans, pour Les Enfants du Silence avec William Hurt. Elle n'avait que 21 ans. Elle est donc aussi la plus jeune actrice de l'histoire à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice. Alors Coda, c'est à voir, c'est sympa. J'ai versé ma petite larme à la fin. Mais quand même, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup plus d'émotions en voyant La Famille Bélier, donc le film français qui a servi de point de départ pour faire Coda, parce que Coda n'est qu'un remake finalement, mais un remake quand même relativement américanisé et beaucoup plus soft. Et donc si vous n'avez vu ni l'un ni l'autre, je vous conseille de commencer par La Famille Bélier et de regarder quand même Coda dans la foulée, parce que c'est pas un mauvais film et vous passerez un bon moment. « C'est la fin de cet épisode 85 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci à vous pour votre fidélité, votre amitié. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Merci Florent Morin d'avoir été avec nous cette semaine.
Avec plaisir.
On est très heureux d'avoir fêté cette officialisation de la DubDub 2022 avec toi. Et puis comme tu ne seras pas là-bas, bah, tu seras plus proche de nous. Et donc on espère bien te retrouver dans iWeek dans un tout petit peu moins de 2 mois, puisque ça commencera le 6 juin et on sera évidemment au rendez-vous.
Ben, moi aussi je serai là avec vous.
Eh ben génial. Merci aussi à vous les amis, Fabrice Neumann, Gilles Dounès. C'était un plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis soirs.
Comme toutes les semaines, absolument, plaisir partagé. Merci Benjamin.
Avec plaisir, vraiment. Un plaisir de retrouver aussi Florent.
Eh ben, plaisir partagé. On fait une bise à nos absents du jour, Elia Bitbol. On te souhaite vraiment le meilleur des rétablissements. Et puis François Le Truédic, bienvenue chez toi, dans ta nouvelle maison. Je vous rappelle les bonnes adresses, patreon.com/iWeek. Ça, c'est pour soutenir iWeek avec vos dons à partir d'1,50€ par épisode. On a besoin de vous pour continuer et surtout pour développer iWeek avec plein de choses dans les tuyaux et pour lesquelles on a besoin d'argent. Donc à votre bon cœur et on compte sur vous. Merci à nos contributeurs à nouveau et nos contributrices. Pour nous suivre sur Twitter, le compte c'est @iWeekNews et le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple, pour échanger avec nous, réagir peut-être à toutes les bêtises qu'on aura dites dans cet épisode, en tout cas pour échanger avec nous, et c'est toujours un plaisir d'interagir ensemble. Et puis iFive, évidemment, le podcast compagnon d'iWeek, le podcast quotidien, le premier, le seul, 5 minutes par jour, les 5 infos essentielles du lundi au vendredi en 5 grosses minutes pour moins de 5€ par mois, 4,99€ sur Spotify et Apple Podcast. Essayez iFive. Vous avez 3 épisodes gratuits sur Apple Podcasts, c'est sans engagement. Et puis on est sûr que vous l'adopterez parce que c'est un peu une drogue et on en est déjà, mine de rien, à 153 épisodes. Passez une très bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve jeudi prochain, on sera le 14 avril pour l'épisode 86. Salut à tous, bye bye.
Bye bye, salut à tous.